Nous sommes au Centre culturel Belvédère, à Mugron, où nous débutons la conférence « Comment concilier sobriété foncière et besoin d'accueil des territoires ?» Nous sommes le mardi 2 juillet 2024. Cette conférence se tient comme introduction à l'étude autour des formes urbaines des villages landais et des hypothèses de densification respectueuse de la qualité urbaine dans une logique de sobriété foncière. Cette dernière est menée par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Landes, accompagnée d'un groupement pluridisciplinaire, composé de Selva Emogin, architecte et urbaniste, Tout-Terrain, architecte, urbaniste et médiateur, Antoine Mounier, architecte, Antoine Maréchal, illustrateur, et Clara Choulet, graphiste. Cette conférence propose d'introduire les notions de sobriété foncière et de villes et villages stationnaires pour se questionner collectivement sur les nouveaux modèles d'aménagement à adopter. Elle est menée par Clémence de Selva Emogin, modérée par Tiffaine Sirio, de Tout-Terrain, et introduite par Antoine Mounier. Partie 1, introduction, croissance urbaine et artificialisation des sols. Madame Dominique Degosse, présidente du CAE 40, entame la conférence.
Tout d'abord, je tiens à remercier Madame la maire de nous accueillir aujourd'hui à Mugron, belvédère de la Chalosse, et vous pouvez admirer d'ici déjà la belle vue que nous avons sur la plaine landaise, en mettant à notre disposition cette belle salle récemment rénovée. Je suis ravie de vous accueillir pour ce troisième rendez-vous de l'année, après avoir exploré déjà la prise en compte de la biodiversité et l'aménagement des territoires à travers le prisme d'une approche paysagère. Aujourd'hui, le CAUE vous propose de réfléchir à la manière de concilier sobriété foncière et besoin d'accueil des territoires. Après des décennies d'expansion de nos villes et villages, nous prenons conscience que cette logique de périurbanisation généralisée n'est plus tenable, car le secteur de la construction est l'un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre. L'étalement urbain consomme de précieux espaces naturels et agricoles, et la périurbanisation fragilise nos centres-villes et nos centres-bourgs. Mais cette exigence de sobriété foncière, désormais inscrite dans la loi avec l'objectif de zéro artificialisation nette à l'horizon 2050, interpelle les acteurs territoriaux. Est-il possible de respecter cet impératif de sobriété foncière tout en répondant aux immenses besoins de logement comme aux besoins des entreprises? Et pour les logements, je rajouterai d'habitat partagé et apaisé. Il est impératif et urgent de répondre à cette question. Plus tôt nous protégerons nos sols de l'artificialisation, plus grande sera notre résilience face aux crises écologiques qui s'annoncent. Le CAUE se mobilise pour aider les territoires landais à relever ce défi et à imaginer des solutions concrètes. Pour cela, nous avons choisi de nous entourer d'une équipe d'experts menée par Clémence de Selva, architecte urbaniste, accompagnée de Tiffaine Sirio, également architecte urbanisme, et d'Antoine Mounier, architecte. La conférence de cet après-midi est l'introduction à une réflexion collective qui va s'échelonner sur une année et qui nous donnera l'occasion de nous retrouver pour échanger sur les solutions les plus adaptées à nos villages. Clémence de Selva va nous inviter à prendre un peu de recul en nous rappelant les enjeux, mais également les pistes de solutions expérimentées au fil du temps, ici ou là. Ce qui l'a conduit, en guise de synthèse, à proposer un concept, celui de ville stationnaire. Elle nous expliquera de quoi il s'agit et nous en débattrons. Son ouvrage est d'ailleurs disponible en consultation sur place, donc deux temps d'échange, un temps de conférence et un temps ensuite d'échange avec vos questions. Je vous souhaite un très bon après-midi, riche d'échanges fructueux.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux, nombreuses à cette troisième rencontre organisée par le CAUE autour de la conciliation des enjeux de sobriété foncière, mais également des enjeux d'accueil de nouveaux habitants. Je suis Antoine Mounier, architecte. J'introduis cette conférence en qualité de co-traitant de l'étude portée par le CAUE autour des formes urbaines des villages landais et des potentiels de renouvellement de ces tissus dans une logique de sobriété foncière. L'objectif de cette étude est de porter un regard nouveau sur les villages et les bourlandais sous l'angle de la sobriété foncière, de comprendre quelles sont les alternatives à l'étalement urbain à partir des tissus landais dans leurs spécificités, leur diversité et leur complémentarité. Ça soulève bien sûr des problématiques qui sont propres à ce sujet. Et nous voulions vous proposer de se rassembler pour discuter de sobriété foncière. De quoi parle-t-on derrière ce terme? Dans quel contexte s'inscrit-il? Et quelles solutions se dessinent pour le renouvellement des tissus urbains et ruraux? La conférence permettra à Clémence de Selva de vous présenter son livre « La ville stationnaire » qu'elle a coécrit avec Philippe Biwix et avec Sophie Janté, qui a été édité aux éditions Actes Sud. C'est un livre exploratoire et illustré des différentes questions d'actualité, de l'urbanisme et de l'aménagement, qui passent notamment au peigne fin la croissance des villes qui est devenue insoutenable. Vous retrouverez au sommaire de cet ouvrage les questions de l'étalement urbain, la déconstruction de la Smart City, la zéro artificialisation nette, et effectivement, cet ouvrage livre aussi des pistes de solutions. Ce livre entre bien sûr en résonance avec le travail mené par Clémence de Selva sur l'agglomération de Poitiers. Elle était à l'époque accompagnée par Tout Terrain. Poitiers qui était territoire pilote de sobriété foncière. C'est cette expérience qui leur a permis de structurer une expertise autour de la sobriété foncière. Et c'est cette expertise qui, justement, va vous être racontée au cours de cette conférence, en parallèle de l'ouvrage de la ville stationnaire. Nous vous donnerons un temps de questions-réponses avant de clôturer par un temps convivial à l'issue de la conférence. Nous pourrons prolonger nos échanges de manière un peu plus informelle. Nous vous signalons que nous captons le son de cette conférence afin de créer des capsules sonores que le CAUE pourra diffuser plus largement. Pour cela, la conférence prend la forme d'une discussion entre Clémence et Tiffaine, où chaque question permettra une nouvelle entrée thématique pour l'enregistrement sonore. Bonne conférence à toutes et à tous.
Bonjour à toutes et à tous, et merci pour ces introductions. Donc pour entamer la conférence, je vais citer la phrase introductive du livre de la ville stationnaire, qui dit: la croissance urbaine tirée par les évolutions démographiques, mais aussi les recompositions sociales et économiques, est largement insoutenable. Le poids environnemental des villes, tant par leur fabrication que par leur métabolisme, n'est plus à démontrer. Le secteur de la construction reste, par les volumes et les matériaux mobilisés, comme par les principaux choix constructifs, l'un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre et l'un des principaux consommateurs de ressources. Je ferme la citation. Clémence, est-ce que tu peux nous rappeler donc les grands impacts de la croissance urbaine et du fonctionnement de nos territoires?
Alors oui, les villes pour exister doivent d'abord se fabriquer. Or, comme tu viens de le dire, Tiffaine, le secteur du bâtiment, mais aussi des travaux publics, est un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre et aussi consommateur de ressources. Donc, c'est 50% de l'acier, 20% de l'aluminium, mais 100% du sable, des granulats qui sont utilisés, engloutis pour construire et entretenir aussi les villes et les infrastructures. Donc, or, évidemment, ciment et acier, c'est vraiment les grands poids lourds climatiques. Donc, on a l'habitude de dire que si le ciment et l'acier étaient des pays, ce seraient les troisièmes plus grands émetteurs de gaz à effet de serre après la Chine et les États-Unis. Donc, les poids lourds climatiques. Ça, c'est des choses qui sont à peu près sues. Et en grandissant, les villes, elles artificialisent. Donc, elles consomment une autre ressource qui est le sol. Alors, l'artificialisation, on commence à beaucoup en avoir entendu parler. Alors, c'est une notion un peu difficile à appréhender et à mesurer. C'est une question d'usage et d'occupation en même temps, qui se définit, historiquement, c'est une notion qui se définit en creux dans la lecture du territoire, parce que c'est les espaces qui ne sont ni naturels, ni agricoles, ni forestiers. Enfin, jusqu'à maintenant, c'est la définition en vigueur. Et en fait, donc, la lecture en plein, c'est nos villes, nos villages, mais aussi ne pas oublier toutes les infrastructures qui les relient et puis tous les espaces qui sont déportés, qui sont un peu loin des yeux. Alors évidemment, la croissance des villes, ce n'est pas un phénomène nouveau. travaux. Si on fait un petit retour en arrière, jusqu'au milieu du 19e siècle environ, on avait seulement 1% du territoire qui était artificialisé. Et avec l'industrialisation, les habitats se sont regroupés autour des fabriques, des usines, des hauts fourneaux, des mines aussi. Les villes sont sorties de leurs fortifications, les faubourgs se sont étendus. Et puis cette dynamique s'est prolongée quand on est rentré à l'après-guerre dans l'ère de la civilisation de la voiture et puis le baby-boom aussi, qui a permis en fait de faciliter la dispersion des fonctions et en faisant ça d'entraîner aussi un besoin toujours plus grand justement d'infrastructures de transport. Donc aujourd'hui on en est à environ 9% du territoire artificialisé. Donc en fait depuis les années 1850, la population a été multipliée par 2, l'espace que nous occupons a été multiplié par 9. Donc c'est ce qu'on appelle cette décorrélation, finalement c'est aussi ce qu'on appelle l'étalement urbain. Alors c'est un phénomène aussi difficile à mesurer parce que c'est diffus, c'est à la fois polarisé cette artificialisation par les métropoles et les littoraux, mais c'est aussi par exemple tous les petits lotissements de 2-4 maisons mais multipliés par 36 000 communes, c'est aussi ça qui fait aussi l'artificialisation.
Donc dans ce que tu viens d'évoquer Clémence, on voit le lien entre étalement et artificialisation et donc les conséquences directes sur le fonctionnement des sols. Est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi la protection des sols est primordiale pour une gestion soutenable des territoires et en quoi l'artificialisation est une donnée à surveiller pour y parvenir ?
Oui. Alors, merci de cette question, parce que dès qu'on parle d'artificialisation, on rentre dans des considérations très techno et puis très chiffrées, et puis dans une comptabilité sur ce qui doit être artificialisé ou non, etc. Mais il faut bien comprendre et se souvenir pourquoi on surveille l'artificialisation aujourd'hui. Donc, évidemment, il y a la perte de biodiversité qui est provoquée par la destruction des habitats et leur fragmentation par les infrastructures linéaires. Il y a aussi le fait que, de manière générale, on manque de culture sur les sols, leur rôle et les services écosystémiques qui sont rendus par eux. Alors la notion de service écosystémique, elle est un petit peu compliquée parce que c'est une vision très anthropocentrée. On se demande bien pourquoi les sols devraient rendre des services, enfin prouver qu'ils doivent rendre des services pour qu'on les protège. Mais en tout cas, si ça peut aider, tant mieux. Et donc, un sol sain, c'est pas seulement une liste d'ingrédients statiques qu'on peut reconstituer mécaniquement. C'est pas la roche-mère, la matière organique, l'eau, etc. Aujourd'hui, on sait mieux qualifier les sols et on sait qu'un sol est vivant, qu'il y a bien plus d'organismes vivants dessous que dessus, mais il y a une plus grande variété d'organismes dessous, mais ce sont sous la forme de micro-organismes, et que ces micro-organismes, ils sont à l'origine de processus et de mécanismes qui fabriquent la fertilité des sols. Donc c'est des cycles de l'azote, cycle du carbone, et puis c'est toute cette activité biologique qui rend des services qui sont invisibles pour nous, mais qui sont vitaux. Alors j'en cite quelques-uns, mais écoulement et filtration de l'eau, régulation du climat, donc rafraîchissement, stockage du carbone, cycle des nutriments, donc fertilité, production de nourriture, production de matériaux, accessoirement aussi, pollinisation. Donc finalement, il faut peut-être plus écouter les microbiologistes et les biologistes qui parlent du sol. Ça aide en fait à assumer cette histoire de sobriété foncière. Et donc à chaque fois qu'on change l'usage d'un sol, en fait on contribue au changement climatique tout simplement. Et le sol se forme avec un pas énorme. Et donc le sol c'est quelque chose dont on hérite quoi en fait. Et c'est aussi la question de l'alimentation et de la sécurité alimentaire dont il s'agit. Parce que la progression, on sait que l'artificialisation, elle progresse au détriment des sols agricoles. Et souvent, les terres agricoles, notamment autour des agglomérations et dans les anciennes plaines, les vallées fluviales. Donc c'est aussi les sols qui ont les meilleures valeurs agronomiques. Or, jusqu'à présent, finalement, cette artificialisation, elle s'est faite dans un contexte avec des rendements, elle s'est faite dans un contexte d'augmentation des rendements, Et puis d'une certaine déprise agricole aussi, c'est-à-dire que c'est pas que la faute de l'urbanisation, c'est aussi la déprise agricole, quoi. Et donc finalement, on a eu toujours besoin de moins de surface pour produire autant ou voire plus. Et sauf que dans un contexte de, avec l'évolution et le changement climatique, on sait que les rendements vont un petit peu baisser. On sait qu'il va y avoir la nécessité de transformer un petit peu le modèle agricole vers une agriculture de protection du vivant, de conservation des sols, comme on dit, et que on va avoir besoin de relocaliser aussi un peu l'agriculture pour des questions de robustesse et puis de sécurité alimentaire, et que tout ça converge vers conserver un maximum de terres agricoles aujourd'hui pour demain, quelque part, et pas trop loin des bassins de vie, et que cette histoire de, on peut dire, résilience alimentaire ou gouvernance alimentaire, c'est une composante à part entière aujourd'hui d'aménagement du territoire.